Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chez vous et bienvenue dans ce programme de Radio Okapi dédié aux jeunes et plus jeunes, le magazine Bana Okapi. Je suis Sarah Soumbela à la présentation de ce magazine. Diedoné Nyangasa sur la mise en onde de ce magazine, coproduit par Plamedimbia Vanga. Grâce à vos élus Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumou, Etienne Lissoumbou, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. Des scènes de bagarres, de cas de harcèlement, de coups et autres bousculades. C'est les décors qui peint plus ou moins le tableau des violences dans les établissements scolaires. Tout cela cause aux enfants et adolescents des graves dommages susceptibles d'entraîner de répercussions à l'âge adulte. En effet, selon le rapport mondial des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur à l'échelle internationale. La violence à l'école est l'une des manifestations les plus importantes, mais aussi une pratique psychologique, physique ou matérielle pratiquée par l'une des parties au système éducatif. C'est la cause des dommages, l'apprenant et à l'enseignant, et même l'école subit un coup. Pour certains spécialistes, toutes ces violences sont la somme de comportements hostiles qui sont socialement inacceptables et qui affecteraient négativement l'ordre général de l'école, qu'il soit pratiqué à l'intérieur de l'établissement d'enseignement ou à l'extérieur. C'est les sujets au cœur de notre magazine de ce jour. Pour ceux qui ne le savent pas, à Kinshasa, un élève a été poignardé mercredi 11 septembre. Son collègue qui est décédé aussitôt, Miradi Fouengue revient sur ce drame qui devrait la chronique en cette période.
Il est 12h, c'est mercredi 11 septembre. C'est la sortie des classes. Sans motif apparent, le jeune Ali, 14 ans, se jette sur Ryan, 12 ans, le poignarde mortellement de deux coups de bistouri à la poitrine et au dos. Antoinette, la grand-mère de Ryan, relate le fait tel que reçu du préfet.
Nous avons échangé avec le directeur, il nous a dit qu'il était dehors lorsque cet événement s'est passé. Il est venu et a vu Ryan en train de pleurer. Je suis blessée. Il a été poignardé au dos et sur la poitrine auprès de Ali. Celui-ci a dit, vous blaguez trop avec moi. Celui qui osera aujourd'hui mourra. Un autre ami voulant l'arrêter a été aussi poignardé et au moment où je vous parle, il est à l'hôpital de Saint-Joseph.
Malgré ces drames, l'école a poursuivi ses activités un jour après, ce qui révolte l'oncle de Ryan.
L'école est ouverte et puis on s'est dit c'est quel message qui passe. Ça c'est vraiment dénigré, donc minimiser l'acte qui est posé. Quel message il passe à d'autres élèves? Donc il a poignardé Ryan et son ami. L'autre enfant est sérieusement malade. Les autres là, donc même les enseignants, vraiment, sont pas parents ou c'est comment?
Le procès du meurtrier présumé de Ryan s'ouvre ce vendredi au tribunal pour enfants de Limété.
Okapi. Encore plus d'infos.
Êtes-vous victime de violences physiques ou verbales de la part de vos collègues? Que faites-vous si vous êtes victime de violences à l'école? Ces deux questions ont été posées aux élèves de quelques grandes villes de la RDC. On démarre ce tour d'horizon à Kinshasa avec Grâce Envoisolo.
Bon, quant à moi, j'ai été victime de violences de la part de mes collègues. Bon, premièrement, c'était juste à cause des réponses. Dans la salle de classe, si que tu ne partages pas tes réponses et tous vont commencer à te blâmer, c'est pas comme ça, on peut vivre, ouais, il faut partager des réponses. Mais en cela, je n'ai rien dit aux parents, je n'ai rien fait du tout, je reste seulement calme, je garde mes silences. C'est ça.
Quant à moi, c'était à l'école primaire et tout était aussi à cause de réponses et à cause de responsabilités que j'étais en train d'assumer en tant que chef de classe. Donc, s'ils sont en train de déranger, vous allez recréer au bavard. Ils te menacent, toi, attends la sortie, on va te battre, tout ça. Bon, à mon époque, j'étais un peu, je ne me dis pas comme maintenant. Donc, si tu me menaces, je te menace aussi. Et mais tout s'était terminé au niveau de l'école parce qu'il y avait des enseignants qui étaient là en train de me conseiller et tout ça. Lorsque je suis victime de violence, premièrement, j'accusais à notre maîtresse ou maître à cette époque. À part ça, quand je rentrais à la maison, je disais aux parents et les parents viendront à la direction pour s'expliquer, voir un peu le problème.
Ouais, moi aussi, j'ai été victime de la violence vu qu'on était encore des petits enfants. À l'école primaire, quand tu refuses de donner une réponse à ton amie, elle va t'harceler en disant « Toi, t'es méchante, ne me parle plus comme ça. » Alors, vu qu'on était encore des petits-enfants, on prenait ça juste entre nous comme de petites blagues. Donc, je ne parlais pas à la maison, même à la maîtresse, je ne disais rien. On gérait ça juste entre nous. Après quelques jours, on va se reparler encore.
Quant à moi, j'ai été victime d'harcèlement en troisième primaire. Et c'était non pas par un, mais trois de mes collègues. Juste parce que mon père était enseignant, donc on pensait que j'étais favorisé par rapport aux autres. Et vu qu'ils étaient en surnombre par rapport à moi, je n'avais pas moyen de me défendre. J'ai subi des harcèlements et aussi des violences physiques. Parce que souvent, ils se rassemblaient à 3, 4, 5, 6 pour me taper à la récréation, à la sortie. Et à chaque fois qu'ils faisaient ça, j'ai couru vite à la direction pour accuser, mais il s'échappait à chaque fois. Alors, pour en finir, je n'ai pas eu d'autre choix que directement aller accuser chez le promoteur, le propriétaire de l'école. Et lui, il a trouvé une solution, il a convoqué les parents des élèves et il les a fait comprendre que ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, j'ai gardé des cicatrices à cause de leur violence. Ils m'ont blessé à la jambe. Mais actuellement, grâce au conseil et à mon évolution personnelle aussi, maintenant, je ne peux plus subir ce genre de violence parce que je sais qu'en cas de violence, je peux me diriger chez tel ou chez tel. Pour arriver à ce niveau, c'était juste pendant la récréation. Une récréation normale, toujours comme d'habitude, ils étaient en train de provoquer et autres. Mais ce jour-là, je me suis un peu énervé et je me suis emporté. Et quand j'ai voulu aussi me battre, en quelque sorte, j'étais en position de faiblesse. Ils m'ont poussé. Je suis tombé et vu que notre école était en étage, j'ai glissé sur les escaliers. Je me suis blessé. Et vu quand ils ont vu le sang, ils ont paniqué, ils se sont échappés. Et enfin, j'avais une preuve parce que c'est comme si on ne me croyait pas qu'on me harcelait. Vu que je suis l'enfant d'un enseignant, vous voyez. Et lorsque j'ai montré la plaie, ils ont compris que non, c'était devenu sérieux. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont partis voir les parents des élèves pour leur montrer ce qu'ils ont fait. Parce que déjà, c'est pas bien de blesser un enfant juste parce qu'il est tel ou il est tel.
Moi, j'ai pas souvenir ou je n'ai jamais été victime d'harcèlement depuis la maternelle jusqu'à présent. Je n'ai jamais été victime d'harcèlement vu que j'ai grandi avec cette habitude d'être timide. J'évite les conversations. Je suis plutôt toujours dans mon coin. J'évite juste les problèmes. C'est comme ça ma façon. Moi, j'ai pas souvenir d'une fois où j'ai été harcelé physiquement ou verbalement à l'école.
Après Kinshasa, rendons-nous à Beni, où Guylaine Kassassi a posé les mêmes questions aux élèves de Beni. Pour rappel, il s'agit de questions suivantes. Êtes-vous victime de violences physiques ou verbales de la part de vos collègues? Que faites-vous si vous êtes victime de violences à l'école? Écoutons leurs réponses.
Oui, j'ai déjà été victime de violences verbales de la part de mes collègues. Comme violences verbales commises sur moi, c'était surtout des injures. Et comment j'ai répliqué, comment j'ai réagi, eh bien, je leur ai tout simplement dit que ce n'était pas bien. Voire même, je suis allé par moments à répliquer moi aussi par d'autres injures.
Bon, je me souviens à 7e, j'étais avec mon ami, on s'est bagarré parce que seulement des stylos. Si un collègue, me provoque, je ne peux plus la battre et puis je vais accuser, même chez les professeurs, soit aux mes amis, il peut les conseiller quand même. Pour moi, je ne peux pas le toucher parce que quand je le touche, je vais le toucher mal.
Si quelqu'un me provoque, je vais l'accuser. L'ami m'avait fouetté à l'école, Et moi aussi, j'avais l'accusé au préfet. Oui. Parce que moi, je n'ai pas la force de les fouetter. Parce qu'à l'école, on ne peut pas se bagarrer.
J'ai déjà été victime de ça. J'en vais réagir directement.
Moi, je vais le pardonner. Moi. Je peux éviter aussi les problèmes pour lui, entre moi et lui. On ne se bagarre pas à l'école aussi.
Si quelqu'un me provoque, je le laisse parce que je ne fais pas la discussion.
Je n'ai jamais été victime de violences physiques ni verbales. Si ça m'arrive, je vais le pardonner. Parce qu'à l'école, que si tu es un bon enfant, il ne faut pas se battre contre l'autre. On dit qu'il faut avoir le pardon. Donc c'est pour cela que je veux lui pardonner.
Si un collègue m'insulte à l'école, je viens parler d'abord pour les informer. Et ce sont eux qui vont me donner si je vais présenter des problèmes aux enseignants ou aux autorités scolaires. Moi, personnellement, je ne peux pas les toucher.
Moi, jamais je rien. Si ça m'arrive, je peux les frapper. Ah, mais ça te provoque, tu peux te bagarrer. Je n'ai pas peur d'être renvoyé.
J'ai déjà un ami qui m'avait taguée. Moi, je n'ai rien fait à lui. Je me tais.
Si quelqu'un me provoque et qui me tabasse, je ne peux pas réagir tout de suite. Je vais d'abord me calmer et regarder s'il n'y a pas de problème, moi, avec lui. Et s'il n'y a pas de problème, moi, avec lui, je vais lui demander qu'est-ce qui ne va pas pour faire comme ça. Donc je vais d'abord demander si, c'est quoi le problème, bien pour me provoquer.
Faisons un tour à Bukavu, Sud Kivu. Beaucoup d'élèves font aujourd'hui face à de violences physiques ou verbales de la part de leurs collègues. Entre insultes, menaces et violences physiques, certains enfants sont traumatisés par leurs collègues à l'école. Nous en avons rencontré quelques-uns ce lundi 16 septembre au complexe scolaire Le Miracle dans la ville de Bukavu. Quelques élèves victimes de harcèlement à l'école de la part de leurs collègues demandent à ceux qui sont dans ce pratique d'y mettre fin. Leurs propos sont recueillis par Rachel Kisembangu.
Quand j'étais encore en deuxième primaire, il y avait un garçon. Donc chaque instant, il me provoque, il commence à me frapper. Quand je lui remets une autre gifle, lui, il commence à me menacer, qu'il m'accuse. Et s'il vient, il me gifle. Moi, je le pousse seulement, il commence à créer des mensonges que je l'ai blessé. Il m'a menacé jusqu'à presque à la fin de l'année. J'ai dit non, ça ne peut plus continuer. Les jours qu'il me menace, je lui ai dit je n'ai plus peur de tes menaces. J'ai arrêté d'avoir peur de lui.
En troisième année primaire, il y avait un garçon, les jours de la récréation, il m'a appris, il a commencé à me soulever sur les coups et puis je lui ai dit que je vais lui accuser, je suis monsieur le maître, puis je suis parti lui accuser. Il a commencé à dire des fausses mensonges et puis il commençait à dire que c'est moi celle qui lui a dit de commencer à me soulever sur les coups. Ça s'est arrêté parce que monsieur le maître avait invité ses parents à l'école.
C'était un ami qui m'avait insulté. Il me voyait seulement passer, puis il commence, quand il me voit en train d'acheter mes choses, il est en train de dire moi, oh l'idiot, je ne sais pas l'équipe, il commence à me taper. Quand moi je dis seulement, si c'est l'étape, ça va être mal parce que moi, faire empêcher de l'étape. Il a continué. Quand moi maintenant je me suis fâché, j'ai dit qu'il ne va plus continuer comme ça. Je suis parti avec cette fois-ci direction, il avait tapé, il avait laissé de m'insulter à chaque fois. Et jusqu'aujourd'hui, il ne fait plus ça.
J'étais encore petit, il y avait des amis qui me racontaient tout le temps des histoires qui me faisaient peur. Après, il y a l'autre fille qui était venue, elle a commencé à me dire que chez eux, il y a une sorcière qui dit comme ça qu'il va me tuer, il va tuer mes parents, il va tuer aussi mon frère. Tous les soirs, j'avais peur. Comme mon salon, on éteint la lumière, j'étais en train seulement d'ouvrir grandement ma porte pour bien dormir. Tout le temps, je voyais comme si il y avait quelqu'un qui venait me menacer avec un couteau. J'ai dit à mes parents, on est venu un jour à la direction, on les a convoqués les deux filles là, et puis on a dit comme ça que là il faut qu'ils arrêtent de continuer à me faire peur. Et ce jour-là ils ont pas arrêté parce qu'on les avait dit on allait convoquer leurs parents et les renvoyer.
En fait, c'était un ami, lui il marcelait toujours, un jour il a hissé le drapeau et l'autre jour il n'était pas présent, il était arrivé en retard, moi j'étais déjà arrivé pour hisser. Il a commencé à me frapper, il m'a chassé de là et puis je suis parti et puis je lui ai dit évite ça, ça c'est mal. Il a commencé à m'injurer, il a dit je m'en fous, il a dit tiens bonbon, l'autre jour que je t'attrape tu verras. J'ai évité de lui parler.
Je peux le conseiller d'arrêter s'il ne veut pas être puni ou d'être chassé de l'école.
C'était avec mon ami, on se bagarrait à chaque fois et ça me mettait en colère. Mais j'ai compris que se bagarrer c'est mal et je lui ai demandé d'arrêter, il refusait. Et quand je lui ai dit que j'allais dire au maître, il a accepté d'arrêter.
Non, c'est mal de menacer.
on peut le dire d'arrêter de menacer les autres enfants. Ça fait du mal, de la colère et ça fait parfois un esprit de vengeance.
Je peux seulement leur dire que c'est mal et que ça fait du mal et ce n'est pas bien. Et la loi refuse qu'on harcèle pas les autres.
Moi aussi, je vais m'adresser à tous les enfants qui agressent les autres ou bien qui les injurient, les maltraitent partout en RDC. Je les dis de les cesser parce que la violence ne sert à rien. J'ai un conseil de dire que aux enfants de ne pas menacer les autres physiquement. Et aussi qu'ils ne savent pas que ça cause du mal aux gens et on leur demande d'arrêter ces menaces, car la menace ne sert à rien.
Moi, je veux dire sur les enfants qui menacent les autres parce que ça fait mal au cœur, parce que si c'était eux qu'on menaçait comme ça, bah, eux aussi, si on menace, ça peut faire mal au cœur. Je dis vraiment, et ça parce que nous aussi, ça nous fait mal au cœur de les menacer comme ça.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à la seconde partie de votre magazine Bana Okapi du jour. Ce magazine aborde aujourd'hui un sujet sur les violences en milieu scolaire. Comment y mettre fin? Je suis Sarah Soumbela à la présentation de ce magazine. Dieudonné Nyangasa Wanyangasa assure la mise en onde. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Omatoki Mofelele Dijano. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'un élève est mort poignardé par son camarade de classe à l'école Madame Sévigné à Limété, Kinshasa, récemment. Selon des témoignages, le présumé meurtrier a cherché à se venger de moqueries dont il était victime dans la part de ce camarade à la suite de la couleur de sa peau. Cette affaire remet sur table la question de violence en milieu scolaire entre élèves. En effet, la violence à l'école est l'une des manifestations les plus importantes. C'est une pratique psychologique, physique ou matérielle pratiquée par l'une des parties au système éducatif et causant des dommages à l'apprenant, à l'enseignant ou à l'école elle-même. Dans cette deuxième partie, Bana Okapi reçoit pour vous un responsable d'une école, un psychologue et un expert de l'éducation à la vie.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Merci de rester à l'écoute de votre magazine Bana Okapi qui vous parle aujourd'hui des violences en milieu scolaire. Comment y mettre fin? Alors, comment les parents réagissent lorsqu'ils apprennent que leur enfant a été victime d'une violence à l'école? Rachel Kessé a recueilli les réponses de quelques parents rencontrés à Bukavu.
Moi, je suis une maman, parent des élèves au lycée, au collège. Ma fille a été menacée par un enfant qui est venu d'une autre école privée. Elle lui disait que tu n'es pas jolie, tu ressembles à un singe. La fille était en septième année. Elle a fallu abandonner. Je suis partie voir la sœur. La sœur, elle n'a pas du tout pris ça en considération. Et heureusement, ma fille est sortie la première de la classe. C'est maintenant que j'ai dit à ma fille, j'ai dit, est-ce que tu as vu qu'à part la beauté, il y a quelque chose que tu dépasses la fille là-bas? Et c'est ainsi qu'elle a repris la force. Mais comme moi j'étais une chrétienne, j'avais conseillé à ma fille qu'avant de commencer chaque chose, il faut d'abord faire le Notre Père et tu fais la prière de l'archange pour la protection. Mais vraiment, elle a été menacée parce que c'est la fille la plus noire de ma maison. Et c'est de là qu'elle a dit qu'effectivement, c'est comme si je ne suis pas belle. Tu vois cette menace, mais elle a été sauvée par sa capacité.
En ce qui concerne mes enfants personnellement, ils n'ont jamais rapporté ce type de violence entre eux avec leurs camarades, si ce n'est que peut-être quelques petites taquineries, quelques petites bagarres. Dernièrement, il y a mon fils, l'aîné, il me disait que dans le bus, parce qu'ils sont dans le bus scolaire, eh bien, il y a les plus grands, lui il est en deuxième première, leurs aînés, ceux qui sont en cinquième, ceux qui sont en sixième, c'est surtout à ce niveau-là qu'ils sont un peu malmenés. Si les plus petits sont assis, ils ont tendance à les obliger à se tenir debout et ils prennent la place des plus petits. Ils obligent les plus petits à porter leur cartable alors qu'eux, ils sont un peu plus grands. En ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé que c'était, au début, c'était quand même tolérable et j'ai juste demandé à mon fils d'être indulgent, d'être tolérant et de les pardonner, un peu comme la Bible nous recommande. Mais comme c'est un fait qui s'est avéré être répétitif et ma fille m'a même dit la même chose, que les plus grands s'en prenaient plus à son frère, et j'avais pris la décision de voir moi-même personnellement le conducteur du bus, le chauffeur du bus, parce que c'est lui qui est le premier responsable pour faire régner l'ordre au sein de son véhicule. Et c'est comme ça que j'avais pris la liberté d'aller voir le conducteur du bus de l'école pour essayer de lui en tenir quelques mots. Mais malheureusement, je n'étais plus allée jusqu'au bout de ma démarche et je n'ai plus le temps de m'entretenir avec lui. Et cette année, grâce à Dieu, j'ai pu trouver un autre moyen de transport pour amener les enfants et les ramener à la maison.
Moi, j'ai déjà connu ça. Mon enfant a un problème de langue. Il bégaye trop, vraiment trop. Donc, si tu n'es pas habitué à lui, tu ne peux pas entendre ce qu'il parle. Et c'est le début de son harcèlement à l'école. Ses amis l'harcèlent tous les jours. En lui disant qu'il n'est pas à sa place, il doit aller au centre pour handicapés parce qu'il ne parle pas, donc il n'écoute pas, il est sourd-muet. Et comme lui, il est frustré, il a pris comme solution la bagarre, ou bien pleurer, en me disant que maman, mes amis m'harcèlent tout le temps parce que je ne sais pas parler, moi je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas. Il est arrivé un certain temps où il s'est bagarré tous les jours à l'école. Je me suis dit, mais ça devine quoi? Je suis allée parler avec ses enseignants et ils m'ont rassuré que ça ne se reproduira pas. Mais moi aussi, j'ai pris l'initiative de chercher d'abord le numéro des parents de ces élèves-là qui l'harcelaient. J'ai parlé avec un des parents de ses amis pour lui montrer que mon enfant est né comme ça. Je ne peux rien et mon enfant aussi ne peut rien. Donc, c'est lui dédiquer son enfant pour qu'il ne puisse pas harceler mon enfant. Et puis, j'ai pris l'initiative aussi de parler à mon enfant, qu'il ne puisse pas avoir honte de son bégaiement. Et je l'ai aussi suggéré de trouver des nouveaux amis, parce que ces amis-là ne sont pas bien pour lui. Et il y a au moins quelques jours qu'il vient à la maison, très content parce qu'il a trouvé... Il m'a dit, « Maman, j'ai déjà trouvé un ami qui me comprend bien. »
Votre enfant a-t-il déjà été victime de violences à l'école? Quelle a été votre réaction? Un parent de Kinshasa répond au micro de Grâce en Vézolo.
Est-ce que votre enfant a-t-il déjà été victime de violences à l'école?
Certainement oui. Un jour, l'enfant est venu me dire qu'il écrivait en classe. Alors, pendant qu'il devait souligner quelque chose, il s'est rendu compte que son ami, son voisin donc, avait retiré sa latte sans son autorisation. Alors, quand lui fait des reproches, son collègue s'est fâché et il lui a dit que je veux t'attendre à la sortie. Et ce n'était même pas la sortie. Donc, à la récré, pendant qu'il se reposait, il est venu le menacer. Alors, l'enfant n'avait pas supporté. Il n'avait pas supporté. C'était vraiment sérieux. C'est ce qu'il est venu me rapporter le soir à la maison.
Est-ce que l'enfant, son ami, l'a tapé, l'a bousculé, ou c'était l'injurier, ou c'était comment?
Oui, exactement. Il avait tapé et ce n'était pas un seul jour. Donc, ce jour-là, c'était presque toute une semaine, quand l'enfant venait, il le menaçait toujours. Au début, il ne m'avait rien dit, mais quand il a trouvé que ça dépassait, il est venu me le dire à la maison. Je n'étais pas calme.
Alors, quelle était votre réaction, monsieur Odon?
Bon, la première des choses, moi, en tant que parent, j'avais posé la question de savoir à l'enfant pourquoi cela arrivait, parce qu'il pouvait aussi avoir tort. Mais quand il m'a expliqué, et que cela prenait toute une semaine, j'ai posé la question de savoir si l'enseignant ou les autorités de l'école en étaient au courant. L'enfant m'a dit, je n'ai rien dit. Et le matin, nous sommes sortis ensemble, je l'ai accompagné jusqu'à l'école, je suis allé voir les autorités de l'école pour leur donner cette information-là. Alors, ils ont appelé l'enfant à ma présence, ils lui ont posé des questions. Bon, l'enfant a avoué que réellement c'était ça, que mon enfant n'avait pas tort, lui avait retiré sa latte sans son autorisation, et quand lui a fait des reproches, il a dit que non, c'est pas ta latte avant de prendre, tu devais m'informer ou me demander. Et l'enfant a avoué Et c'est à partir de ce moment, lorsque les autorités ont pris la décision, ils ont dit, désormais, si tu continues à le menacer, nous allons te faire partir. Et c'est à partir de ce jour-là que l'enfant était calme et son ami ne l'avait plus dérangé. Donc c'est tout ce que j'avais.
Qu'est-ce que vous, parents, vous devez faire pour éviter ces genres de comportements, c'est-à-dire que pour éviter les violences physiques ou verbales? Et quelle est la responsabilité des enseignants?
Moi, en tant que parent, je suis appelé à veiller sur le comportement de chacun des enfants. Et cela, généralement, se découvre lors de dialogues avec les enfants et le suivi. Vous avez 5 enfants, vous devez savoir que tel enfant se comporte de telle manière. Tel autre est violent, tel autre est impoli, tel autre est voleur. En tant que parent, nous devons savoir ça. Un parent qui n'arrive pas à découvrir le comportement de chacun de ses enfants, on suppose qu'il n'a pas de temps avec ses enfants. Il ne s'entretient pas avec ses enfants. Il n'a jamais eu le temps d'observer ses enfants. Mais déjà, des comportements comme ça doivent être réprimandés à partir de la maison. Le parent qui découvre que l'enfant est violent, l'enfant est brutal, il est agressif, doit faire un effort à ce que cet enfant, déjà à partir de la maison, devienne calme et évite ce genre de comportement. Parce que ça commence à partir de la maison et puis ça va jusqu'à l'école. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la responsabilité de parents que nous sommes. Alors à l'école, nous demandons simplement aux encadreurs, aux autorités de l'école de veiller et de bien veiller sur les enfants. L'enseignant dans la salle de classe doit veiller sur les enfants et doit connaître le comportement de chacun des enfants, s'il a réellement suivi. Si l'enseignant suit bien ses élèves, il doit vraiment découvrir que tel enfant se comporte de telle manière, tel autre est ceci, tel autre cela. Et cela va lui permettre de veiller sur ses enfants, que ce soit pendant la récréation, que ce soit à la sortie, parce que à moins de 100 mètres de l'école, l'enfant est sous la responsabilité de l'école. Mais au-delà de 100 mètres, c'est là où il n'est plus sous la responsabilité de l'école. Donc, les enseignants et les autorités scolaires en général doivent surveiller et bien surveiller les enfants pendant les quelques heures qui sont entre leurs mains. Parce que eux, ils remplacent les autorités, eux, les encadreurs, remplacent directement le parent pendant 6 heures, pendant 7 heures où l'enfant se trouve à l'école. Donc, ils ont le devoir de veiller sur les enfants pendant tout ce temps-là jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison.
Monsieur Odonkel, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes mes questions.
Je vous remercie aussi, monsieur le journaliste.
Nous notons dans l'acte qui a été posé par cet enfant le sentiment de colère, de haine et celui de vengeance. Il faut créer un service psychologique à l'école primaire pour traiter de cas pareils. Ces propos sont de M. Jean-Claude Dissaché, conseiller d'orientation, responsable d'école et assistant à l'université de Kinshasa. Il est au micro de Stanislas Diomi.
Bonjour M. Jean-Claude Dissaché.
Bonjour M. le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capi, la fréquence de la paix.
Aujourd'hui, nous abordons le sujet sur les violences en milieu scolaire, comment y mettre fin. Comme vous le savez, un élève a été tué la semaine dernière, poignardé par un de ses camarades de classe. Qu'est-ce qui explique cette violence entre élèves en milieu scolaire?
Je pense, monsieur le journaliste, que votre question est assez vaste pour arriver à expliquer la violence en milieu scolaire eu égard à ce qui a eu lieu récemment à l'école Madame de Sévigné. Nous avons tous appris avec consternation ce qui est arrivé. J'en profite de votre micro pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille et pleurer. Mais quand cela ne tienne, pour revenir à votre question,
oui, allez-y.
J'estime que tout l'acte qui a été posé par ce jeune enfant de 8-9 ans, nous avons noté dans son comportement le sentiment de colère, le sentiment de haine et celui de vengeance. Ce n'est que ces trois sentiments qui peuvent expliquer à ce qu'un enfant ou cet enfant soit arrivé à un pareil comportement. Mais alors, il faut analyser ces comportements de manière globale. Il ne faut pas se limiter seulement à l'enfant, mais il faut évaluer le comportement par rapport à son milieu d'origine et par rapport à la manière dont l'école a pu gérer ses problèmes, parce que c'était déjà un conflit naissant entre celui qui était son partagé, et la question doit être vraiment, comment dire, regardée dans tous les sens. On doit scruter les problèmes dans tous les sens pour voir éventuellement, qu'est-ce qui a pu motiver un pareil comportement de la part de cet enfant.
Et vous, en tant que conseiller d'orientation, responsable de l'école, que faites-vous si deux élèves se battent dans la cour et quelle punition réservez-vous en pareille situation?
D'abord, monsieur le journaliste, vous devez savoir qu'il y a une part de choses entre la direction des disciplines et l'orientation scolaire et professionnelle. Dans l'orientation scolaire professionnelle, nous voyons par là les services de guidance et de psychologie à l'école. Il est vrai que dans nos écoles aux humanités, cela existe, mais à l'école primaire, les services psychologiques n'existent pas. Mm-hmm. Et les services psychologiques n'agissent pas en termes de punition envers les enfants. Les psychologues qui sont dans les écoles sont des spécialistes de gestion de conflits en milieu scolaire. Mm-hmm. Regardez par exemple, monsieur le journaliste, l'enfant qui a poignardé se dit qu'il a été plusieurs fois victime de discrimination, c'est-à-dire des injures discriminatoires à son endroit. Certainement qu'il se plaint, il se serait plaint soit auprès d'un enseignant ou auprès de la direction des disciplines de son école, mais à se demander de quelle manière sa plainte a été reçue et gérée par l'école. Il y a une part de responsabilité à l'école. Mais aussi, il y a une part de responsabilité à la maison. D'où provient cet enfant-là? Certainement qu'il s'est plaint auprès de ses propres parents. Et ses parents lui ont certainement dit quelle attitude il devait adopter face à ce que les amis lui manifestaient comme dénigrement. Donc, il y a plusieurs problèmes qui doivent malheureusement dans les centres éducatifs congolais. Ça fait défaut.
À vous entendre parler, vous avez émis le vœu que l'on crée un service psychologique à l'école primaire. Est-ce prévu par le programme national de l'éducation primaire, secondaire et professionnelle?
En République démocratique du Congo, monsieur le journaliste, les services psychologiques dans les écoles primaires n'existent pas. Nous avons les services d'orientation scolaire et professionnelle qui fait le suivi et l'accompagnement des élèves au niveau des humanités. Mais à l'école primaire, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà pourquoi des problèmes des enfants qui manifestent par exemple une caractéropathie, ils ne sont pas suivis par des spécialistes en la matière. Regardez, si nous devons nous interroger sur ce que les enfants suivent effectivement à la maison, dans les télévisions, et l'impact que cela peut avoir dans les milieux scolaires, par exemple dans le jeu des enfants. Si un psychologue spécialiste de cette matière se trouve là, il peut savoir comment gérer ces enfants-là, il peut savoir comment gérer les conflits qui peuvent intervenir ou bien qui peuvent surgir entre élèves et élèves ou entre enseignants et élèves. Malheureusement, il n'y a aucun arrêté qui consacre les postes de psychologues scolaires dans nos écoles. Voilà toute la difficulté, monsieur le journaliste.
En cas de conflit entre élèves, quelle solution vous proposez? Est-ce que cela suffit pour dissiper le malentendu?
Cela ne suffit pas, justement, monsieur le journaliste. Pourquoi? Parce que pour arriver à gérer un conflit entre élèves et élèves, ou entre élèves et enseignants, dans les cas d'espèce, il s'agit d'un conflit entre élèves et élèves, cela ne relève pas simplement du psychologue lui-même. Il y a toute une équipe qui doit se mettre en branle pour accompagner ou gérer ces problèmes-là. Donc, je pense que à notre niveau, nous pouvons donner, prodiguer des conseils, nous pouvons suivre des enfants, mais nous avons besoin d'une interdisciplinarité qui doit se mettre en musique pour intervenir auprès des enfants. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous avons besoin des éducateurs, nous avons besoin des moralistes, nous avons même besoin des pasteurs. Nous avons besoin de tous ces gens-là qui peuvent se mettre ensemble pour que nous puissions sauver la donne de l'enfant. Ce n'est pas gratuit dire que seul le psychologue peut résoudre tous ces problèmes-là, non. Mais il faut une collégialité de disciplinarité pour que nous arrivions à résoudre tous les problèmes qui se posent à l'enfant en milieu scolaire. Sous d'autres cieux, il existe ce qu'on appelle des équipes médico-psychosociales, où nous avons la collégialité d'interdisciplinarité entre les psychologues, les médecins, les assistants sociaux, éventuellement d'autres disciplines qui peuvent s'y greffer, mais tous acteurs de l'action éducative qui agissent auprès de l'enfant.
Monsieur Jean-Claude Dissachi, dans ce cas, en quoi servirait la direction de discipline à l'école primaire?
La direction de discipline au sein d'une école, vous savez que l'école est gérée par une réglementation, ce qu'on appelle le règlement intérieur. Ce règlement intérieur définit la conduite à suivre et à observer au sein de l'école. Et lorsque cette conduite n'est pas respectée, il y a des sanctions qui accompagnent ce non-respect des mesures à l'école. Mais, monsieur le journaliste, vous devez savoir que tous les problèmes qui se posent à l'école ne peuvent pas être que résolus par des sanctions. Je vous donne un exemple. Un enfant qui vient régulièrement, qui arrive régulièrement en retard à l'école, il a un problème de ponctualité. Mais la direction des disciplines va se limiter à punir parce qu'il est dit qu'un enfant qui arrive au-delà de telle heure doit être puni parce qu'il ne respectera pas l'heure d'arriver à l'école. Mais les conseillers d'orientation, les psychologues scolaires vont suivre l'enfant pour connaître les raisons qui font en sorte que cet enfant arrive en retard. Vous allez constater, par exemple, dans plusieurs cas que nous avons suivis, il y a certains enfants qui, avant de venir à l'école, il est obligé d'aller prendre ses petites sœurs quelque part dans une autre école pour les accompagner à la maison. Ce qui fait que toutes les premières heures, cet enfant-là sera toujours en retard. Et si ce problème n'a pas été en amont signalé à l'école, vous voyez que la direction des disciplines va se limiter seulement à punir. Mais les conseils d'orientation, les psychologues vont intervenir pour faire voir à la direction des disciplines que ce cas est un cas à prendre avec beaucoup de pincettes et à prendre avec beaucoup de tact. Voilà comment il faut procéder, voilà comment il faut agir. Et les psychologues peuvent même intervenir auprès de la famille pour faire voir aux parents quels sont les défauts ou les dangers qu'il y a lorsqu'ils font venir toujours l'enfant en retard à l'école parce qu'il doit assumer des charges qui sont en réalité des charges parentales, mais qui sont assurées par l'enfant parce que aîné des familles ou quelque chose de ce genre. Voilà un peu qu'est-ce que les services de psychologie ou les conseils d'orientation peuvent faire dans les écoles. Nous écoutons.
Monsieur Jean-Claude Disachi, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis sur la fréquence de la paix, la radio Okapi. Oh, oh, oh.
Violence en milieu scolaire, on en parle dans cette émission Bana Okapi de ce jour. Nous recevons notre premier invité, monsieur Paul Mboula. Il est éducateur à la vie. Comment il perçoit la violence en milieu scolaire? Il répond aux questions de Gisèle Cache.
Monsieur Paul Mboula, bonjour.
Bonjour.
Un élève a été tué la semaine dernière, poignardé par un de ses camarades de classe. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier une telle violence à l'école?
On ne sait pas juger l'acte à distance parce que la violence prend de plus en plus de formes multiples et a des origines multiples. Si nous devons chercher des causes, il faudra remonter sur d'abord l'histoire de celui qui a commis l'acte, mais en même temps, il faudra qu'on étudie l'ambiance dans laquelle l'acte s'est réalisé. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'enfant des scènes de violence qui l'ont marqué, qui pouvaient provenir de scènes de famille ou qui pouvaient prévenir des expériences qu'il a connues dans son entourage, ou encore celui qui l'a agressé ne l'a pas poussé à cela, ou les autres amis qui ont vécu la scène n'ont pas poussé l'auteur à faire pire que ce qu'il pouvait faire par lui-même. Donc il faudra que l'on puisse interroger l'auteur, mais aussi interroger l'entourage pour déterminer les tenants et les aboutissants d'une telle violence.
D'après le premier témoignage, M. Paul Mboula, c'est que l'auteur de cet acte subissait un harcèlement pratiquement de la part de ses collègues. Ça, ce sont des informations que nos équipes ont recueillies sur le terrain. Est-ce que dans ces cas-là, ça peut aussi pousser un enfant d'agir à l'extrême tel que nous l'avons vécu la semaine dernière?
C'est vrai qu'il a subi des brimades, il a été humilié, c'est vrai, peut-être plusieurs fois. Peut-être que cela provenait de celui à qui il a fait du tort, ou bien ça pourrait aussi provenir des enseignants qui peut-être n'ont pas usé d'un bon langage tout le temps qu'ils entraient dans la classe. Donc on ne sait pas d'emblée dire, madame, que cet enfant, simplement par cette brimade, est arrivé à un tel comportement ou à subir telle violence. Parce que On doit se dire, on peut être brimé, mais la réaction ne sera pas la même selon qu'on est de telle ou telle personnalité. La réaction dépend également des facteurs liés à la personnalité, au contexte, et j'avoue que si on est plusieurs fois brimé et qu'on ne sait pas réintégrer le groupe, c'est évident qu'à un moment donné, une révolte se déclenche et que l'on cherche par les moyens qui sont à sa portée pour donner sa réaction. Mmh. Lorsqu'on est en présence de la violence, madame, on doit être prudent pour ne pas conclure hâtivement à une conclusion qui normalement ne traduit pas exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il faut entrer en famille. Est-ce que la famille est stable? Est-ce que ce comportement n'est pas passager? Hein? Est-ce que la colère n'a pas commencé à la maison ou n'a pas commencé en chemin pour aboutir finalement à cet acte à l'école? Donc la violence peut se réaliser parce que on a été dans une ambiance familiale ou sociale mauvaise et finalement se manifester au niveau de l'école.
Puisque vous parlez des facteurs, Monsieur Paul Mboula, d'après vous, quels sont les facteurs de la violence en milieu scolaire?
Nous allons réaliser que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, a besoin d'un climat de confiance et de sécurité. Aussi petit qu'il soit, il a besoin de ce climat de confiance et de sécurité. Et il faudra qu'il soit placé ou vive dans un milieu où les aînés, les parents inspirent des comportements exemplaires. Hein? Et écoutez, si déjà on est en famille et qu'on est agressé verbalement ou physiquement par les parents et que l'on n'a pas encore assez d'atouts pour répliquer à leur égard, on va reporter ça sur les pères, sur les autres enfants. Hein? Il faudra également que l'on puisse subir une éducation qui nous permet d'exercer notre créativité, de jouer des bons jeux. Sinon, un enfant qui est exposé à la brutalité, à des jeux violents, et surtout ceux qui vivent aujourd'hui ces jeux violents à travers la télévision et les images crues qu'on est en train d'exposer dans la rue, ces enfants sont finalement invités à devenir de plus en plus violents. Aussi, nous devons nous dire que si l'enfant est trop cloisonné, il n'a pas assez d'espace pour s'exprimer. Cet espace-là ne favorise pas non plus un déploiement d'une personnalité gentille, tolérante, et ainsi de suite. Regardez les écoles dites privées aujourd'hui, hein, sont construites sans espace de récréation, tout se passe dans la salle de classe, et quelle salle de classe? Là où il n'y a pas suffisamment assez de matériel pour finalement évoluer. Vous êtes dans une classe d'une centaine d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez trouver là-dedans? Une centaine d'éducation, c'est-à-dire une centaine de personnalités et une centaine de gens qui viennent des origines différentes, qui ont des ambitions multiples. L'enseignant dépassé ou les encadreurs dépassés, parfois, hein, ne savent pas encadrer ses enfants et donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a le contexte socio-familial, mais il y a aussi le contexte scolaire lui-même. Est-ce que l'espace, le système éducatif lui-même permet-il à l'enfant d'adopter les comportements sociaux? C'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent brutaux, des enfants qui sont difficiles, comme on le dit en pédagogie, mais dans tous les cas, il faudra que nous puissions lui offrir un environnement qui favorise son intégration, parce qu'il faut traiter chaque enfant au cas par cas.
Ok. Face à la violence, faut-il privilégier la prévention ou la répression?
Les deux doivent être de mise parce que la prévention, comme on dit, coûte moins cher que la répression.
La répression.
Dans la mesure où si l'école a été bien pensée, le système éducatif assure à l'enseignant les moyens pour accompagner les enfants. Si l'école dispose d'un psychologue, et si les parents collaborent suffisamment avec l'école pour aider les enfants, nous avons réduit très sensiblement les violences à l'école. Nous avons beaucoup de regrets de constater que beaucoup de parents, parfois qui sont convoqués à l'école pour un cas de discipline, commencent par gronder ceux qui sont en train d'encadrer l'enfant. Peut-être que l'enfant peut avoir raison et que il se trouve en face d'un enseignant incompétent ou véreux, mais il faut d'abord arriver à s'asseoir, échanger, dialoguer et voir dans quelle mesure l'enfant a tort et comment on peut l'aider. Mais si le parent vient lui-même à l'école pour agresser les encadreurs, les éducateurs qui sont occupés à élever son enfant, vous avez encore renforcé l'indiscipline chez l'enfant et la violence peut davantage suivre. Et si le comportement de l'enfant est lié aux mauvaises conditions de vie en famille, mais comment est-ce que l'éducateur va découvrir et va changer ces conditions si on n'a pas échangé avec
les parents.
Donc les parents doivent collaborer pour qu'on arrive finalement à aider l'enfant à trouver ce climat séant qui lui permet de s'exprimer.
Alors quelles sont les solutions pour lutter contre la violence en milieu scolaire ou carrément quel remède pédagogique à la violence qu'est-ce que vous nous proposez?
Bon, la question de la violence en milieu scolaire est une question mondiale.
Oui.
Ça, c'est évident. Et chaque génération, il naît toujours des personnes plus ou moins difficiles à élever. Parce que le mal est déjà là, les parents eux-mêmes n'ont pas peut-être subi la bonne éducation et n'assurent pas correctement leurs tâches, en fait, dans le sens moral de la question. Est-ce que ses parents, est-ce que l'État, est-ce que l'enfant lui-même se trouve dans une ambiance d'un épanouissement de paix? On doit dire généralement non. Mais ce que nous devons faire, c'est qu'à un moment donné, quand on est parent et quand on remarque que la violence se développe déjà, peut-être pas chez soi, mais dans le milieu où on envoie l'enfant étudier, dans notre quartier, nous devons à un moment donné dire, réfléchissons en tant qu'adultes, comment faire pour que nous puissions améliorer les conditions d'éducation de nos enfants. C'est l'affaire de tous. Donc c'est l'État d'abord qui doit assurer un système éducatif éprouvé, qui tient compte de tous ces aléas et surtout qui met l'enseignant dans les conditions d'éducation, avant de le sanctionner, parce que si on lui a assuré suffisamment de quoi vivre, de quoi faire son travail et qu'il ne le fait pas correctement, on peut sanctionner négativement un tel enseignant. Deuxièmement, un enseignant qui affiche des comportements de violence, à un moment donné, on a tous réprimé la brutalité. Ceux qui ont grandi à notre époque savaient qu'il y avait le fouet du maître, il y avait plusieurs punition d'ordre physique de plus en plus réprimée aujourd'hui. Il faudra qu'à un moment donné, quand nous parlons discipline positive, il faudra que l'enseignant soit instruit, formé sur les méthodes et techniques qu'il faut utiliser pour sanctionner autrement qu'à la manière du fouet, à la manière violente, parce que la violence va engendrer encore une autre violence.
Ok.
Nous aurons aussi remarqué que les méthodes collaboratives entre enfants, si on donne des travaux de groupe, on peut facilement et pousser les enfants à vivre ensemble, à découvrir les règles de vie d'ensemble. Déjà les tout petits, et même avant d'aller à l'école, s'ils sont déjà dans un milieu, ils peuvent découvrir progressivement les règles de vie, partageant les jeux avec les autres. Ils apprennent des petites règles qu'ils peuvent intégrer et qui vont les servir dans la vie. De manière préventive, donc, il y a bien des choses que nous devons faire, préparer l'enseignant, préparer le parent, inviter l'État à offrir les moyens suffisants et en même temps pousser l'enfant lui-même à découvrir progressivement que c'est pour son bien qu'on est en train de l'élever à la paix, à la sécurité, au respect des règles. Là sont les moyens préventifs. Mais alors, quand il y a déjà un incident, il faudra que les autres découvrent que ce que celui-là a fait ne collabore pas à la construction d'un monde meilleur, d'une vie d'ensemble qui pourrait finalement nous aider tous à nous épanouir. Et je pense que si on a sanctionné positivement avec la collaboration de tout le monde, parents, autres acteurs éducatifs et l'élève lui-même, on peut arriver finalement à faire changer ou à faire adopter aux autres enfants des comportements adéquats, favorables à une vie communautaire paisible.
D'accord. Mais entre-temps, par exemple, pour un enfant qui est harcelé, comment doit-il se comporter?
La règle, c'est informer les parents, informer les amis qu'ils trouvent, qui sont capables de dénoncer, et informer l'éducateur. Donc, tout dépend de là d'où vient la violence. Si la violence vient de l'enseignant, l'enseignant a plus que lui. C'est d'abord les parents qu'il faut informer. C'est pourquoi déjà en famille, il faut entretenir un climat de dialogue, madame.
Ok. Donc, l'enfant doit toujours signaler en cas d'harcèlement. Merci beaucoup, Monsieur Paul Mboula. Et je rappelle que vous êtes éducateur à la vie.
Merci beaucoup.
Au capillé.
Pour M. Nirachanera Kaninda, psychologue, la violence ou l'agressivité de l'enfant se justifie par son éducation ou sa socialisation. Lorsque l'enfant grandit, il acquiert de vertus, de comportements, des attitudes qu'il observe chez les parents, dans son environnement et qui influencent sa personnalité d'une manière ou d'une autre. M. Nirachanera s'entretient avec Stanislas Diomi.
Nirachanera Kaninda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et auteur d'une pensée qui circule actuellement, le néralisme. En quoi consiste-t-elle?
Le néralisme est une pensée nouvelle qui consiste tout simplement à transformer l'homme. L'homme qui a été socialisé de manière peut-être à détruire son environnement, à détruire son semblable. Le néralisme prône les vertus et va du principe selon lequel nous sommes tenus aux vertus, aux valeurs, mais nous ne pouvons pas nous soustraire des souffrances, de la misère. Et qu'en dépit de ce que nous vivons, nous sommes tenus qu'à faire le bien, faire preuve des valeurs et des vertus.
Alors, Monsieur Nirachanera, aujourd'hui nous abordons le sujet sur les violences en milieu scolaire. Comme vous le savez, il y a un élève qui a été tué la semaine dernière, poignardé par un de ses camarades de classe. Qu'est-ce qui peut expliquer ces comportements violents jusqu'à conduire à la mort?
L'agressivité de l'enfant ne peut être justifiée que par sa éducation ou sa socialisation. Vous savez, l'enfant, lorsqu'il grandit, il acquiert des aptitudes, des valeurs, des comportements qu'il observe chez les parents, dans son environnement, et tout ce qu'il arrive à observer et qui influence sa personnalité d'une manière ou d'une autre. Et lorsque vous avez sa personnalité est construite en termes de certains facteurs d'agressivité, et il est bien normal que l'enfant développe des caractères de criminalité, et particulièrement des violences, d'agression envers un autre enfant. Et c'est là aussi peut être justifié peut-être par la défensive. Quand l'enfant se sent de plus en plus attaqué, il veut se défendre, défendre sa personne, il peut se justifier qu'il puisse agir par agressivité.
Est-ce que l'acte de violence commis par cet enfant peut-il être résultat de violences subies par l'auteur dans le passé?
Il est très probable, mais la subtilité demande à ce qu'on puisse faire un diagnostic, parce que le diagnostic permettrait de savoir quelle est la personnalité à travers un examen psychologique, la personnalité de l'enfant, quel est le vécu de l'enfant au sein de la famille et quelles sont les caractéristiques qui ont conduit à ce que l'enfant puisse commettre cet acte-là. Il faut noter que le comportement est un conditionnement. On ne peut que observer un comportement si et seulement si notre personnalité psychique est mise dans le conditionnement de pouvoir produire ces comportements-là. Donc, il se peut que sa personnalité est agressive, mais également, il a subi une situation qui l'a amené à pouvoir décider d'agir de la sorte. Et c'est à travers un diagnostic psychologique qu'on peut voir, faire un bilan psychologique qui permettrait de savoir réellement quels sont les vrais facteurs qui ont influencé son comportement. Est-ce qu'il a réellement une personnalité criminelle ou c'est un fait sporadique qui est survenu par rapport au contexte qui a permis à cet élève soit commis?
Alors, comment faire ce diagnostic, coach?
Par des examens des projections des personnalités et également avec l'entretien avec l'enfant, qui permettrait à savoir d'abord quelle est la personnalité de l'enfant. Est-ce qu'il a une personnalité agressive? Et s'il en a, est-ce que c'est dû à un problème familial? C'est dû à la carence affective paternel ou maternel, ou c'est dû à autre facteur d'imitation. Parce que si l'enfant aussi a un modèle d'un personnage qui est agressif, il sait peut aussi qu'il se comporte de la sorte comme son modèle ou est la personne qui l'imite.
Et qu'est-ce qui peut susciter la violence dans le comportement d'un enfant?
La violence ne peut être suscitée que par des situations de frustration. Donc quand il est frustré, il veut se défendre face à une frustration. Le mécanisme de défense psychologique est de deux manières. Soit il se régène sur soi, soit il va attaquer. Et c'est de cette manière que l'enfant peut être agressif envers une situation de frustration. Il va agresser la personne qui suscite cette frustration-là. Ou si l'enfant a développé une forte personnalité criminelle, agressive, le réflexe, c'est lui, sera toujours de l'agressivité.
Et les enfants qui ont assisté à cet ignoble acte sont certainement sous un état de choc. Que faire pour les aider à oublier
Il faut nécessairement qu'ils aient un soutien psychologique, mais que l'école aussi met en place un système culturel qui favorise les échanges communautaires pour apprendre à l'enfant à vivre en communauté, à vivre en société, nous sommes semblables, et à ne pas se défendre par la violence ou l'agressivité. Et également que les parents favorisent les dialogues avec leurs enfants pour développer l'affectivité et qui permettrait à l'enfant de pouvoir résoudre toute frustration qu'il a par la non-violence.
Et quelles sont les solutions pour lutter contre les violences en milieu scolaire?
Il suffit de prévenir par des activités culturelles et communautaires, et c'est ce qui permettra à l'enfant d'apprendre à vivre en communauté et apprendre à l'enfant à exprimer ses émotions telles qu'elles sont ressenties. Et cela permettrait à l'enfant de vouloir s'exprimer chaque fois qu'il est frustré. De cette manière-là, on va prévenir la violence, parce que chaque situation de frustration, chaque situation d'agressivité, l'enfant va apprendre des modèles ou des manières à comment résoudre un problème de frustration qu'il rencontre. Il va partager ses frustrations avec un adulte ou avec les amis, et ce qui lui permettrait de surmonter, et aussi au milieu scolaire, de pouvoir prévenir les situations de violence.
À votre niveau, quel est le rôle que peut jouer la famille dans la lutte contre la violence en milieu scolaire?
Nous estimons que les échanges et les dialogues entre les parents et les enfants sont très nécessaires. Et si il y a ces dialogues permanents entre les parents et les enfants, cela serait facile à favoriser prévention de la violence déjà au niveau de la famille. Et il est très important que les parents soient plus proches des enfants, s'expriment correctement avec les enfants, pour que les enfants aient la facilité à exprimer leurs ressentis, leurs émotions.
Vous avez épinglé quelques facteurs qui favorisent la violence chez l'enfant, mais quand un parent ou un enseignant se trouve face à un enfant violent, comment peut-il se comporter?
Un parent n'a que soit à consulter un éducateur, parce que l'éducateur va faire un diagnostic pour détecter les facteurs qui sont à la base de cette agressivité de l'enfant, de ces facteurs agressifs ou comportements agressifs de l'enfant, mais également les échanges et un cadre plus récréatif, plus culturel au sein même de la famille. Et l'affection surtout est un facteur très important qui permet à l'enfant de surmonter cette situation.
Comme vous le savez, coach Nirachanira, cette affaire est partie d'une provocation, un harcèlement qui a fini par un meurtre. Quel conseil pouvez-vous donner aux enfants en ce qui concerne le harcèlement?
Il est très recommandé aux enfants, lorsqu'on est harcelé, de pouvoir dénoncer les faits auprès, si c'est à l'école, auprès des enseignants, auprès d'un adulte. Et tout comportement d'un autre enfant qui frise l'agressivité ou l'harcèlement, il est très recommandé que l'enfant puisse signaler directement. Et la notion de signalement doit être la notion qui doit être mise en évidence par l'école, par les enseignants, pour que chaque enfant ait l'habitude et les réflexes de pouvoir signaler toute situation d'harcèlement, d'agressivité ou des comportements qui les déplaisent en quelque sorte.
Là, nous avons presque 3 cas. Il y a la famille de l'enfant qui a commis l'acte et la famille de l'enfant qui est décédé et l'école également. Sur le plan psychologique, il y a des zones de tension. En tant que psychologue, qu'est-ce que vous pouvez proposer sous forme de remède à toutes ces parties concernées?
Comme nous le savons, les enfants ne sont pas généralement responsables de leurs actes parce qu'ils sont encore mineurs. Ils n'ont pas encore la totalité de l'autonomie intellectuelle. Et il est très justifiable que de telles situations arrivent et chaque partie dans son camp doit devoir mettre l'eau dans son vin, c'est rassurer tout simplement que ça soit réparé. Et il est de la grande responsabilité de l'État de pouvoir assurer les responsabilités civiles établies de telle manière que chaque partie soit aisée, que justice soit faite et que ceux qui sont victimes puissent bénéficier de la réparation des faits et que chaque partie aussi prenne des préventions qui permettra à ce que ces genres d'actes ne puissent pas arriver dans le futur. Et encore, que c'est un enfant qui a commis l'acte, il a son avenir devant, il faut l'amener à pouvoir surmonter cette étape ou cette situation.
Monsieur Nerachanera Kaninda, je rappelle que vous êtes psychologue. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'est avec cet entretien que nous bouclons ce numéro de votre magazine Banan Capi du jour. Nous avons abordé la question de violence en milieu scolaire, comment y remédier. Merci de votre attention soutenue, je vous laisse en compagnie de l'antenne Soir, antenne qui sera animée par Jeff Opella.